Nous avons vu la division de la nation entre Roboam et Jéroboam. Nous sommes toujours à la scène 2 qui est la déchéance, mais nous allons voir maintenant étapes 2 et 3. Donc, il y a trois étapes dans cette scène 2. Division, dispersion en deux fois, dispersion du royaume du Nord, qu'on appelle la crise assyrienne, où Israël est détruite. J'ai hésité avec ce mot détruite, mais je crois qu'on peut dire la nation elle-même est détruite. Le peuple est détruit dans le sens où ils sont dispersés, et le texte dit, ils ne sont pas revenus jusqu'à ce jour. Voilà. Jusqu'à pas au XXIe siècle, mais aussi jusqu'au jour où ils ont écrit le texte. Grosso modo, les gens du Nord vont être déportés et ils ne vont pas revenir. Et étape 3 donc sera la crise babylonienne. Nous avons déjà mentionné ces deux grands empires, les Assyriens, capitale Ninive, célèbre dans le livre de Jonas. Il y a énormément de pierres, etc., d'objets, de vestiges, à Paris, dans le Louvre. La dernière fois que nous sommes allés au Louvre, on y allait tous les 5-10 ans, mais j'ai passé 2 heures dans la seule salle des Assyriens. Il y a trop à voir au Louvre. Et là, j'ai pas lu tous les panneaux. En 2 heures, j'ai pas lu tous les panneaux. Dans le Louvre et au British Museum, il y a pas mal de choses. Nous connaissons un peu mieux les Babyloniens, je crois, à cause de cette crise où Judas va partir. Non, Judas ne sera pas détruite absolument, mais partira en captivité. Et le mois prochain, donc, au mois de mars, nous verrons un retour. Ce sera la scène 3. Le symbolisme, donc, à gauche, c'est la division. Nous avons déjà vu ça à la séance précédente. C'est étape 1, division du pays. Et à droite, les deux symboles pour étape 2 et 3, les deux crises. La crise assyrienne où Israël est barré. On pourrait mettre une flèche et ils partent. Hein, et ils sont déportés de leur pays. Et ensuite, la crise babylonienne, quelques temps plus tard, 127 ans plus tard, je crois, où Judas est exilé. Et vous voyez, ce qui est barré là, c'est Jérusalem. Et la gloire de Dieu qui part, la gloire de Dieu qui quitte son peuple. Là encore, on parle de tragédie. C'est une tragédie spirituelle dans ces deux royaumes, mais c'est une tragédie profonde où ils perdent la présence de Dieu. Ils ne perdent pas l'influence de Dieu, mais ils perdent la présence réelle de Dieu. Voilà, nous allons voir étape 2, la crise assyrienne. Avec ce symbole, oh là là, une certaine instabilité. L'ordinateur ici. Malheureusement. On m'a dit que Linux est très stable, c'est pas vrai. Enfin, c'est pas vrai pour moi. Voilà, ce symbole-là est le symbole de la perte d'Israël. On a mis Dan et Bethel, c'est là où il y a les deux veaux d'or. Hein. La cause de cette crise, on peut dire, elle est politique, elle est militaire, mais elle est surtout spirituelle. L'Éternel avait arraché Israël à la dynastie de David. Donc, arraché Israël, c'est-à-dire le royaume du Nord, pas Juda. Et les Israélites, donc les gens du Nord, s'étaient donnés pour roi Jéroboam, fils de Nébat. Celui-ci les avait incités à se détourner de l'Éternel et les avait entraînés dans un grave péché. Dès lors, les Israélites n'avaient cessé de se livrer à tous les péchés que Jéroboam lui-même avait commis. Persister. Ils ne les abandonnèrent pas jusqu'au jour où l'Éternel les bannit loin de lui. Tiens, il y a un sous-entendu qu'ils ont abandonné à ce moment-là. J'espère. comme il avait annoncé par tous ses serviteurs les prophètes, Israël a été déporté loin de son pays, en Assyrie, où il est resté jusqu'à ce jour. Je ne sais pas quelle date les érudits donnent à ce texte, mais j'imagine que ce texte a été écrit par un juif pieux érudit pendant la période d'exil, un juif de Juda, du sud. Ah oui, j'ouvre une parenthèse, on n'appelait pas les gens du nord des juifs. C'était des Israélites, c'était pas des juifs, parce que le mot juif veut dire celui de Juda, celui qui vient de Juda. Et donc, au début de l'histoire d'Israël, du peuple d'Israël, Abraham n'était ni juif, ni israélite. Il était hébreu. On parlait des hébreux. Et quand Joseph descend en Égypte, la femme Potiphar dit « c'est hébreu, c'est hébreu ». Et donc, on a Abraham, Isaac n'était pas juif non plus, il n'était pas israélite. Son fils Jacob est devenu Israël. Et donc, à partir des fils de Jacob, d'Israël, ils sont israélites, les enfants d'Israël. Mais le mot juif apparaît uniquement après la déportation des Israélites du Nord. Et les gens du Sud s'appellent Israélites du Sud. Ils s'appellent aussi Judéens. Judéens, c'est un peu plus tard, je crois. Mais à partir de la déportation des Israélites du Nord, on commence à parler des Juifs. Et surtout, dans les livres qui concernent le retour, Esdras, Néhémie et Esther. Je crois que la moitié des occurrences du mot juif dans l'Ancien Testament sont dans le livre d'Esther. Donc, juif veut dire que... Donc, il ne faut pas corriger les gens, mais quand quelqu'un dit Abraham le juif, bon, c'est pas tout à fait... mais on comprend, hein. On comprend. Contexte de la crise assyrienne. 19 rois méchants dans le nord avec un déclin national. Petit b, n'est pas tellement important. Une brève reprise économique et militaire sous un roi qui s'appelait Jéroboam. Mais c'est Jéroboam II. Heureusement qu'ils n'ont pas eu Jéroboam 16, 17, 17 comme Louis 16, 17, 17 et 18 en France. L'Éternel avait vu l'affliction d'Israël à son comble, l'extrémité à laquelle se trouvaient réduits esclaves et hommes libres, sans qu'il n'y ait personne pour venir au secours d'Israël. Donc Israël, c'est le royaume du Nord. Or, l'Éternel n'avait point résolu d'effacer le nom d'Israël de dessous les cieux. Je dirais, il n'avait pas encore décidé. Et il les délivra par Jéroboam, fils de Joas, donc Jéroboam II. Mais le texte ne dit pas qu'ils se sont repentis de leur péché. Note de la Bible du Semeur, l'abandon de Dieu par les Israélites du Nord, donc, n'a pas encore atteint le point de non-retour. Dans sa grâce, soulignons sa grâce, l'Éternel prolonge le temps de sa patience. Ils ne sont pas repentis, hein, mais afin de leur donner l'occasion de se repentir. Le Seigneur est lent à la colère. Dans 2 Pierre, je crois que c'est dans 2 Pierre, il y a un verset qui dit que le Seigneur est lent, il attend que les gens aient l'occasion de se repentir. Et donc, il n'envoie pas la fin du monde tout de suite. Mais leur persistance en infidélité finira par leur attirer le jugement divin. Il y a référence à Amos, quelques versets dans Amos qu'on ne va pas lire. Mais Amos était du sud, il est allé dans le nord pour prêcher la repentance. Intéressant ce livre d'Amos. Il accentue le péché contre les pauvres. Vous opprimez les pauvres. Vous savez que dans l'Ancien Testament, les prophètes, donc le Seigneur, étaient très contre les riches qui opprimaient les pauvres. Dans le livre de Jacques aussi. Hein. Page 2, voyons maintenant la crise. Qu'est-ce qui arrive? Eh bien, il y a un roi du Nord, roi d'Israël, Pekach, ou Pekach, je ne sais pas comment on prononce. Hein. On a souvent cette phrase, Pekach, fils de Ramalia. Ok? Donc ce roi israélite à Samarie s'allie avec Retsin, le roi de Syrie. Il forme une alliance. Ils vont s'attaquer à Juda, le royaume du sud, contre Akaz. Attention, Akab, avec un B, c'était un roi du nord qui se marie avec Jézabel. Ici, on a Akaz, un roi du sud, qui n'est pas un bon roi. Ce n'est pas un bon roi. C'est un méchant roi. Enfin, méchant, mauvais, un mauvais roi. Et pire que mauvais, il était stupide. Alors, mauvais et intelligent, c'est dangereux, mais mauvais et stupide, c'est peut-être plus dangereux, je ne sais pas. Mais on ne devrait pas se moquer de lui. On a ici une carte pour nous aider, si vous n'êtes pas familier. Babylone, Ninive, Assyrie. Merci frère.
Moi je l'avais pas vissé.
Ah oui,
ils ont arraché la prise.
Ah, c'est parfait.
Oui, c'est pour ça que j'ai pas vissé.
C'est la même Syrie. La même Syrie qu'actuellement, la même capitale. Apparemment, Damas est la ville la plus ancienne avec une population continue depuis des millénaires. Il y a aussi Aleppo. Je ne sais pas lequel. Alep. C'est Alep ou à Damas, c'est Alep, je crois. Mais donc, le roi syrien, Retsin, s'allie avec le roi Pekash de Samarie et vont attaquer Jérusalem. Jérusalem est normalement le royaume qui est le plus fidèle, mais Akaz n'est pas fidèle au Seigneur. Ésaïe, je vais ouvrir ma Bible. Ésaïe chapitre 7, je vais lire quelques versets. Ésaïe 7, verset 1. Il arriva au temps d'Akaz, fils de Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda, que Retsin, roi de Syrie, monta avec Pekash, fils de Ramalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger. Mais il ne put l'assiéger. On vint dire à la maison de David, les Syriens campent en Éphraïm. Et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, donc le grand prophète Ésaïe, va à la rencontre d'Akaz, toi et cher Jashub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur, sur la route du champ des Foulons, et dis-lui, sois tranquille. Ne crains rien, que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tison fumant, ces deux mégots de cigarettes qu'on a jetés par terre, ils vont s'éteindre. Intéressant ça. Ne crains point devant la colère de Retsin et de la Syrie et de Pekash, fils de Ramalia. J'ai ajouté le mot Pekash là. De ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce que Ephraïm et le fils de Remalia, Ephraïm c'est qui? C'est la tribu d'Ephraïm, mais le royaume du Nord s'appelle, le royaume d'Israël, s'appelle aussi Ephraïm, d'après une des grandes tribus. Quand on voit Ephraïm dans l'Ancien Testament, normalement, ça veut dire soit la tribu, soit le royaume tout entier, le royaume du Nord. Ils disent, montons contre Juda, assiégeons la ville, battons-la en brèche, et proclamons-y pour roi le fils de Tabéel. C'est qui Tabéel? On ne sait pas. Il s'appelle comment le fils? On ne sait pas. Mais leur projet, c'est, on va arrêter la lignée de David. Dieu avait promis qu'il y aurait un descendant de David sur le trône. Ben, c'est un projet contre le projet de Dieu, là. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ça n'arrivera pas, ça n'aura pas lieu. Alors comment est-ce que ça n'a pas eu lieu? Pardon. Donc Dieu dit, je vais les arrêter. Ne t'inquiète pas, Akaz. Mais l'Éternel parla de nouveau à Akaz, lui, demande à ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu, demande-le. Akaz répondit, je ne demanderai rien. Je ne tenterai pas l'Éternel. Ah, c'est très religieux ça. Ésaïe dit, écoute alors, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu? Et donc Akaz, il refuse d'écouter et il dit, moi j'ai la solution. J'ai la solution. Où est mon pointeur? Je l'ai perdu. Allez. Qu'est-ce qu'il fait Akaz? Il envoie une ambassade à Ninive. Parce que les Assyriens commencent à monter en puissance. au secours. Alors, j'oublie le nom du roi à ce moment-là, mais il fait alliance. Vous avez un blanc à remplir, la petite idée. Akaz fait alliance contre eux avec Assyrie ou Ninive, qu'on peut appeler, ça vient pas de moi, ça vient de quelqu'un d'autre, le pitbull. Pourquoi le pitbull? Parce que c'est comme s'il y avait un chat Syrie, un autre chat Samarie ou Israël, qui s'attaque au troisième chat, Judas. Et le troisième chat dit, là, ils sont deux contre un, je vais appeler le pitbull pour m'aider. Et le pitbull va faire courte et va s'occuper de ces chats-là. Alors, c'est vrai, c'est ce qu'il a fait. Et le résultat, c'est que quelques années plus tard, Assyrie fait une invasion de Damas, de Syrie, et fait la conquête. Les Assyriens font la conquête des Syriens. Ils continuent leur route et ils font la conquête d'Israël, au royaume du Nord. Et là, à la page 2, vous avez plusieurs images des Assyriens. Les Assyriens étaient violents et cruel. Quelqu'un a dit que c'était les nazis de cette époque-là. Extrêmement cruel. Ils mettaient les gens à mort d'une façon de torture. Parfois, ils mettaient des gens dans une peau d'animal mouillée et qui allait sécher. Donc, ils étaient étouffés par le cuir qui se rétrécissait. Intéressant, quand même. C'était, hein? Et ils ont débordé comme un fleuve en crue. Ésaïe 8, 7, c'est dans vos notes. La Syrie est comme un fleuve en crue dont se sert l'Éternel pour arriver à ses fins. C'est l'instrument de Dieu. Ésaïe 10, petit b, elle est l'instrument de Dieu. Malheur à l'Assyrien, bâton de ma colère, ce gourdin dans sa main est l'instrument de ma fureur. Pourquoi le Seigneur dit malheur à Assyrie? Le Seigneur se sert de Assyrie comme d'un gourdin. J'ai amené un gourdin. C'est dur, hein?
C'est un bon casse-tête.
Oula! Un bon casse-tête. Alors, Ninive, ça résonne bien, merci. Assyrie ou Ninive, c'est le gourdin. Mais qui tient le gourdin? C'est Dieu. C'est Dieu. Ce gourdin dans sa main, la main de Dieu, est l'instrument de ma fureur. Je l'enverrai pour attaquer une nation impie, Israël. Je vais lui donner la mission de rafler le butin d'un peuple qui déchaîne ma fureur, de le mettre au pillage et de le piétiner comme la boue des rues. Donc, qui est en action? Assyrie, Ninive ou Dieu? Les deux. Hein? D'après les Assyriens, qui est en action? C'est eux. D'après les Syriens, d'après les Israélites, c'est nazis, là, entre guillemets. Mais d'après Dieu, qui est en action? Il est le bâton entre mes mains. Mais le roi assyrien, quelle est l'expression? Petit c, il refuse de reconnaître la main de Dieu, Ésaïe 10. Le roi d'Assyrie dit, ma main a ramassé les richesses des peuples, comme on ramasse un nid. J'ai trouvé un nid dans mon jardin il y a quelque temps. Il n'y avait pas deux à la pharmacie. Donc ce nid, je l'ai trouvé dans mon jardin. Et donc si on va trouver un nid dans un arbre, il y aura soit des œufs, et on les ramasse, soit des oiselets. Hein? Et le roi d'Assyrie dit, ma main a ramassé les richesses des peuples comme on ramasse un nid, comme on s'empare des œufs abandonnés. J'ai pris toute la terre sans qu'il y ait personne pour agiter les ailes ou pour ouvrir le bec, pip, ou pour siffler. Donc, il dit, personne n'a pu me résister. Alors, c'est moi l'armée la plus puissante du monde. Merci. Mais le prophète Petit D nous révèle la réalité invisible. C'est Dieu qui maîtrise parfaitement la situation. 10, 15, la hache. Alors, j'ai pas porté de hache avec moi. Si les autorités trouvent une hache dans ma voiture, j'ai un gilet jaune sous le siège aussi. Hein, il est sous le siège. Bon. Et donc, Dieu se sert des Assyriens à son insu. Donc, on voit ici, Dieu est au contre, il maîtrise même les situations politiques des plus grandes nations. Alors, ne m'interrogez pas comment, ce que fait Dieu actuellement avec l'Europe, ou le Brexit, ou la Russie, la Chine et les États-Unis. Je ne saurais décortiquer tout ça, mais je sais qu'il est, le Seigneur est au contrôle, et il permet beaucoup de choses. Il permet beaucoup de choses qui nous font mal, hein. Mais il se sert de la Syrie pour ses desseins. Pourquoi? Parce qu'il apporte le jugement contre Israël du Nord. Les Ninivites ne savent pas qu'ils sont l'instrument entre les mains de Dieu pour le jugement sur le peuple de Dieu. Page 3. L'invasion elle-même, enfin ce qui devait arriver, arrive. Les Assyriens envahissent la Syrie pour la conquête, puis Israël, et ils déportent les Israélites. Le roi d'Assyrie s'appelle Salmanazar, c'est un nom qui est dans notre Bible, et il déporte les gens. Maintenant, cet empire des Assyriens ne s'intéresse pas à occuper et à gouverner les peuples. Il s'intéresse à piller. Et il veut les richesses de ces peuples aux alentours, et il veut les maintenir sur leur joug, les asservir, merci, mais pas forcément les administrer. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont déplacer les peuples pour les empêcher de se liguer ensemble. Ils vont mélanger les peuples. Nous avons rencontré, ma femme et moi, un monsieur alsacien qui avait 65-70 ans, il y a bien longtemps, il y a 30 ans, ou plus. Il nous a raconté, à 19 ans, on a enrôlé de force dans l'armée allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pour eux, les Alsaciens étaient allemands. On l'a mis dans une unité où ils étaient deux Alsaciens, deux Polonais, deux Tchèques et deux je ne sais plus qui. Ils avaient seule la langue allemande en commun et ne pouvaient pas communiquer en secret avec les autres, seulement en allemand. Donc le caporal pouvait les comprendre. Donc on met les gens de différentes origines ensemble, on brasse les gens pour qu'ils ne se liguent pas ensemble et ne se révoltent pas. C'est ce qu'ils ont fait. Et c'est ce qu'on fait. Le roi d'Assyrie parcourut tout le pays, monta contre Samarie, qu'il assiégea pendant 3 ans. La 9e année d'Osée, le dernier roi, le roi d'Assyrie prit Samarie et emmena Israël captif. Donc vous avez la flèche qui part là. Hein. J'ai quelques diapos pour vous montrer les phrases qui suivent. Ici vous voyez des gens qui vont être déportés d'Israël. À Shalach, il les fit habiter à Shalach, ou Shalach. Et sur le Chabor, fleuve de Gozan. Et dans les villes des Mèdes, c'est tout là-bas. Hein. Donc ils ont déporté, ils les ont dispersés. Et au contraire, ils ont fait venir des gens de ces régions-là, ou de certaines régions. Le roi d'Assyrie fit venir des gens, d'abord, de Babylone. Babylone et Cutha sont là, les deux premiers qui sont mentionnés. Et ils sont implantés dans les tribus d'Israël du Nord. De Hamath, Ava et Hamath. Je ne sais pas si ça a marché. C'est délicat, c'est... Oh là, ça peut marcher. De Sepharvaïm. Bon, ça n'a pas marché. J'ai pas révisé ces diapos. Et donc, il les établit dans les villes de Samarie. Samarie, c'est tout le pays, hein, pas seulement la seule ville de Samarie. Dans les villes de Samarie, à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de Samarie, ils habitèrent dans ces villes. Et ces gens étaient des idolâtres qui ont adoré leur propre idole ou leur propre Dieu. Si vous avez lu tout le texte, vous avez découvert que le Seigneur a permis à des lions de tuer les gens au début. Après, le roi d'Assyrie a dit, ben, il faut prendre un prêtre de leur Dieu du pays, donc il connaît le pays. C'est vraiment un mélange de toutes sortes d'idées religieuses qu'il y a là. Pour scriptum à cette histoire, l'invasion du royaume du sud. Je ne sais pas si on a de nouveau la carte. Non. Je reviens à la carte. De toute façon, voilà. Donc, les Assyriens ont conquis la Syrie, ont conquis Samarie, et maintenant ils vont s'attaquer à Jérusalem. Ce n'est plus Akaz, le roi stupide. C'est son fils, Ézéchias. Donc, l'Assyrien continue son chemin, envahit Juda. Akaz était mort, son fils Ézéchias règne. Et il paye, Ézéchias, il paye de l'argent. 300 talents d'argent, 30 talents d'or, et une fortune. Il paye une fortune aux Assyriens. Ne nous attaquez pas, on vous paiera un tribut. D'accord, payez-nous. Ils acceptent le tribut, ils attaquent quand même. Hein? Ce qui est arrivé. Hein? Ils font la conquête de 70 villes fortifiées. Numéro 2, Jérusalem est assiégée, petit blanc à remplir, par Sanchirib, donc qui est soit le général, soit le roi, j'oublie toujours. Mais ils ne réussissent pas. Pourquoi ? Ils menacent, Sanchirib menace les gens de Jérusalem. Ézéchias, il envoie des serviteurs, des ministres chez le prophète Ésaïe, qui lui répond par la parole du Seigneur, ne t'inquiète pas, vous serez délivrés, nous serons délivrés. Sanchirib revient merci roi, je crois qu'il a commencé comme général aussi. Il arrive de nouveau et il envoie une lettre de menace. Et j'aime beaucoup ce passage, vous connaissez, où Ézéchias reçoit la lettre de menace. Il va au temple. Je crois qu'il se met à genoux, j'oublie souvent les détails. Mais il étale la lettre devant l'Éternel. Il dit, Seigneur, regarde-les pour toi-même. Ouvre les yeux, Seigneur, délivre-nous. Et là, de nouveau, Ésaïe donne un message d'espoir, de délivrance. Et il dit, je vais faire quelque chose de spectaculaire, dit le Seigneur. Et en fait, le lendemain matin, quand l'armée assyrienne s'est réveillée, ben, ils étaient tous morts. Ils ne sont pas réveillés. 185 000 morts, soldats sont morts en une seule nuit. Ça rappelle l'ange vengeur en Égypte ou l'ange vengeur du temps de David. Et donc, c'était très juste. Le projet était prêt à disparaître. Maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchirib et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu. C'est 2 Rois 19:19. Remarquez, Ézéchias, il connaît apparemment le projet de Dieu pour Israël. Que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu. Ça rappelle, Nombre 14:21, la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Comme Salomon à la dédicace du temple. Je voudrais vous donner une carte pour vos notes. Vous verrez, j'ai marqué en rose donc l'Empire assyrien et la conquête du Moyen-Orient. Sauf, c'est en vert, le petit royaume de Juda qui a échappé. Était énorme. Et comme un village de. Qu'est-ce qu'on dit astériste, un village de. Irréductible. C'est un petit peu comme ça. Et ça, c'est la crise assyrienne. La crise assyrienne qui a fini le royaume du Nord. Ils sont déportés partout, ils ne reviennent pas. Enfin, peut-être certaines familles sont revenues, mais pas beaucoup. Rappelez que certaines familles des Lévites ont déménagé du nord vers le sud et sont devenus judéens. Et quelques autres familles pieuses ont fait. Vous vous rappelez aussi que certains des Israélites du nord ont été déportés à Babylone. Et donc ils vivent à Babylone. Et leurs descendants sont toujours là, quelques années plus tard, quand les Juifs du Juda sont exilés. Et donc ils peuvent revenir aussi. Donc ça c'est la crise assyrienne, vous avez une date, si vous aimez les dates historiques, 722 avant Jésus-Christ. 722 avant Jésus-Christ. Quel est le rôle des prophètes pendant cette période? Elle est importante. Elle est importante. Nous allons revenir là-dessus à la fin de la séance. Mais le rôle des prophètes, c'était surtout d'avertir. Ils avertissaient les gens qui étaient dans le péché, les gens qui étaient en révolte, les gens qui étaient idolâtres, le peuple de Dieu qui était idolâtre, les avertissaient, attention, vous ne pouvez pas continuer comme ça, Dieu est lent, l'Éternel, Yahvé est lent à la colère, mais alors la phrase, sa colère a ses limites, je n'aime pas cette phrase, il va décider au moment où ça ne sert plus à rien d'attendre, ça ne sert plus à rien de donner plus de temps, on peut le dire comme ça. Et aussi, on va le mentionner plus tard aussi, dans notre Bible, avec les prophètes Ésaïe, Jérémie, Osée, Michée, etc., nous avons beaucoup de textes qui nous apprennent énormément sur Dieu, sur son caractère, sur sa justice, sur sa patience, que nous n'aurions pas dans notre Bible, à part ces temps douloureux. Je ne veux pas dire qu'il fallait ces temps douloureux pour qu'on apprenne, mais je veux dire, Dieu sait faire concourir au bien les choses pour ceux qu'il aime, en Romains 8, 28. Donc on peut le voir comme ça. Maintenant nous avançons. Il faut que j'avance avec. Je risque de faire. Ah voilà, des gens qui se promènent partout en Moyen-Orient. Voilà. Nous arrivons donc à l'étape 3, à la crise babylonienne. Et la crise babylonienne va finir par, on pourrait dire la déportation, je préfère dire l'exil. Il n'y a pas de différence en français, je crois, peut-être entre déportation et exil, mais moi, je fais la différence. Les Israélites du Nord sont déportés, ne reviennent pas. Les Juifs du Sud sont exilés, et certains vont revenir. Ce ne sera pas pour toujours. La cause et la dureté du cœur de Juda, on aimerait bien de lire dans la Bible que Juda ait appris une leçon. Combien de fois est-ce que nous avons appris une leçon d'une bêtise de quelqu'un d'autre sans faire la bêtise nous-mêmes? C'est quand même rare. Hein. L'Éternel ne cessait d'interpeller son peuple. Il dit dans 2 Chroniques 36, 15, la phrase dans la Bible du Semeur s'est traduit « très tôt et à maintes reprises ». Darby traduit « se levant de bonne heure ». Je vais lire le verset. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonne heure à ses envoyés, donc les prophètes, la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. La phrase de bonne heure est littéralement tôt le matin. Le Seigneur donna tôt le matin à ses prophètes la mission. Je ne sais pas qui s'est levé tôt le matin, c'est le Seigneur ou les prophètes, mais la phrase veut dire, il a fait tout son possible. Le Seigneur a fait tout son possible. Et combien d'années a-t-il été patient avec ces gens-là? Pas des décennies, des siècles. Des siècles. Vraiment, le Seigneur est le héros de cette histoire. Les réponses au Seigneur de plusieurs rois de Juda, le royaume du Sud. Salmanazar assiège Jérusalem pendant 3 ans dans le règne d'Ézéchias. Ézéchias fait confiance à l'Éternel et il est délivré. Il y a un réveil lors de son royaume. Mais il y a un petit bémol, un petit hic dans son règne, la déviation babylonienne. C'est ce qui est arrivé. Les gens de Babylone, qui n'étaient pas un grand empire, qui étaient une province de Ninive, une province des Assyriens, mais des magistrats ou des fonctionnaires sont venus visiter Juda. Et puis, on dit, mais qu'est-ce que vous avez ici dans votre capitale? Ézéchias dit, ah, vous devriez voir mon palais, oui. Et je vous fais voir le temple et toutes les richesses. Et puis, Ésaïe dit au roi, qu'est-ce que tu as montré à ces gens-là? Je leur ai montré tout. Hein. Et donc, il voulait se montrer. Tu as eu tort, parce que ces gens-là vont revenir dans l'avenir. Et ils vont, je ne me rappelle plus si c'était égorger ou faire quelque chose, crever l'œil, les yeux, de tes descendants. Et vous vous rappelez la réponse, la réaction d'Ézéchias ? Ah ouais, c'est une bonne nouvelle. C'est pas de mon temps. Francis Schaeffer appelle ça une attitude bourgeoise par excellence. Attitude bourgeoise. Tant que ça arrive là-bas, hein, c'est pas seulement les bourgeois. Hein. Mais voilà. Manassé, le fils du bon roi Ézéchias, qui a régné le plus long de tous les rois, un roi terrible. Il tuait ses propres enfants dans le feu, à Moloch. Il s'est repenti quand même. Et le Seigneur a été indulgent avec lui à cause de sa repentance. Son fils Amon aussi, très mauvais. Il a fait reconstruire les hauts lieux à Baal-Astarté je crois qu'Ézéchias avait détruit. Petit C, Josias, un bon roi, il y a encore un réveil. Et le Seigneur a dit, son message à Josias, c'était « C'est très bien que tu renouvelles la loi et aussi les fêtes de Pentecôte et tout ça, une restauration. Mais c'est trop tard pour le pays. C'est trop tard. Ils ont atteint le point de non-retour. » Et en fait, ce réveil a été avorté, dans le sens où le peuple n'a pas suivi ce réveil. La plupart n'ont pas suivi. Josias était un des bons rois judéens. On a Asa, Josaphat, Ézéchias et Josias qui vraiment aimaient le Seigneur. Il y avait quatre autres qui étaient bons. Joas, Amatsia, Azaria, Jotham. Je connais très, très, très peu en fait. Grand B, les derniers jours de Juda, conditions spirituelles du pays. Rappelons-nous que c'est le peuple de Dieu qui est censé être un phare dans la nuit des ténèbres pour toutes les nations. Bénédiction à toutes les nations de la terre. Eh bien, voici un résumé de 2 rois 21 à 23, plein d'idoles sur les hauts lieux, dans le temple de l'Éternel, des idoles dans le temple. L'adoration du soleil, de la lune, des constellations. À un certain moment, je crois que c'est Ézéchiel, le Seigneur l'amène en vision dans le temple et voit des images de toutes les choses détestables écrites sur les murs. Imaginez venir ici lors de votre culte et on écrit les pires gros mots, etc. Ou dans une synagogue actuelle à Paris, si on venait pénétrer pour mettre des swastikas, c'est actuel, c'est ça. Voilà la réaction d'Ézéchiel. Le temple devient un abri pour des chevaux, leurs chariots. Mais c'est pas n'importe quel chevaux et chariot, ils sont dédiés, consacrés au soleil. Il y a des prostituées mâles dans le culte du temple, des sacrifices humains, sorcellerie, divination. Les abominations et les choses détestables. Ces mots sont choisis. La condition déplorable du temple de Dieu, c'est terrible. Rappelez l'importance du temple, c'est là où j'ai placé mon nom. C'est là qu'on rencontre le Seigneur. Rappelons-nous que du temps de Moïse et de Salomon, les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, c'est la présence de Dieu. Car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Et maintenant, qu'est-ce qui arrive ? Dans une vision d'Ézéchiel, Dieu abandonne le temple. Abandonne le temple. Vous avez là, ici sur l'écran, vous avez la gloire de Dieu en vision. Il la voit se déplacer sur le seuil de la maison. Donc, le seuil, entre le temple et la cour, le parvis. La gloire de l'Éternel se pose sur les chérubins dans cette vision, des chérubins, des êtres magnifiques et extraordinaires, plein d'yeux tout autour, et les roues, vous avez lu ça. Puis ensuite, la gloire de Dieu se déplace du milieu de la ville sur la montagne à l'Orient, c'est la montagne des Oliviers. Et la montagne des Oliviers se déplace vers l'Orient, et on ne voit pas revenir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est partie. Ichabod, point de gloire. Vous savez quand la gloire de Dieu revient ? Un petit bébé qu'on amène au temple pour le dédicacer, c'est Jésus. Mais là, Jésus ne s'est pas manifesté dans sa gloire. Il y a un passage en Ézéchiel 8, 43, je crois, qui parle de la gloire de Dieu qui revient, mais c'est dans l'avenir. C'est toujours dans l'avenir. Et la gloire de Dieu, bien sûr, c'est sa présence. Je pense à la nouvelle terre, à la nouvelle Jérusalem qui est sur la nouvelle terre. Et Dieu sur son trône et l'agneau habiteront parmi nous, sur la nouvelle terre. Ça, c'est la gloire de Dieu. Les quatre derniers rois, dans les années pathétiques de Juda, ils ignorent volontairement la réalité de leur situation. Nous avons connu des leaders politiques comme ça, qui ignorent ce qui se passe, et ils résistent contre Babylone. Babylone a conquis Ninive maintenant, hein. C'est la grande puissance. Les Babyloniens qu'on appelle aussi les Chaldéens. Chaldéens, Babyloniens, c'est la même chose. C'est la puissance mondiale. Et pourtant, les rois de Juda font plus confiance à l'ancienne puissance mondiale, l'Égypte. Et Dieu leur envoie un messager, c'est surtout Jérémie, qui leur dit « Arrêtez de vous confier en Égypte. Rendez-vous pas à donner un rendez-vous à quelqu'un, rendez-vous complètement au roi de Babylone. » Traître, Jérémie, traître. Mais Jérémie leur disait, c'est Dieu qui dit ça. Et vous aurez la vie sauve. On a Joachas, Joachim, Joachin et Sédécias. C'est un petit peu compliqué. Joachas, son descendant de David, hein, 3 mois seulement, et il était roi du temps où l'Égypte était toujours puissant, et le roi d'Égypte l'a destitué de son trône après 3 mois, et l'a emmené captif en Égypte. Et a mis Joachim, ils avaient d'autres noms aussi, c'est compliqué, sur le trône qui a régné 11 ans, entre-temps, Nebuchadnezzar a battu l'Égypte et devient la puissance. Joachim étant emmené captif à Babylone après seulement 3 mois, et Nebuchadnezzar met Sédécias sur le trône qui règne 11 ans. Aucun de ces rois n'est fidèle au Seigneur. Aucun. Babylone a attaqué Juda 3 fois. Vous aimez les dates? Je vous donne les dates. 605 avant Jésus-Christ, c'est là que Daniel et ses 3 amis sont exilés. Une première vague, ils exilent des gens éduqués, de familles royales et nobles, pour les éduquer, faire devenir des fonctionnaires. Parce qu'au contraire des Assyriens, les Babyloniens, non seulement font la conquête des pays, mais les administrent. Et c'est une administration comme des colonies. Deuxième vague en 597, et ils font des captifs parmi les artisans, les maçons, les serruriers, les gens qui ont un métier. Pourquoi ? Il y a un grand programme de construction à Babylone. Et voilà, et sûrement c'est pas seulement les Juifs qu'ils ont pris, c'est les serruriers des autres provinces, etc. Et finalement, après la résistance des rois de Juda contre Babylone en 587 ou 86 avant Jésus-Christ, Nebuchadnezzar fait la conquête de Jérusalem et détruit. Le jugement de Dieu les cause. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. On a déjà lu ce verset, mais nous continuons. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu. Ils méprisèrent ses paroles. On me rappelle, moi, une parabole de Jésus, ça. Hein. Le vignoble a été affermi à des vignerons. Ils méprisèrent ses paroles, se raillèrent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devienne sans remède. Une plaie qui ne guérit pas. Un point de non-retour. Vous savez que quand un avion va traverser un grand océan comme l'Atlantique, eh bien on ne met pas plus de carburant dans l'avion de ce qui est nécessaire, parce que c'est lourd et ça fait simplement, si on va aller à New York, on en met pour aller encore 200 ou 300 km plus loin, mais pas plus. Et donc il arrive à un point au milieu de l'Atlantique où on ne peut pas faire demi-tour. On ne peut pas revenir à Paris ou à Lyon. Impossible, parce qu'il n'y a pas assez de carburant. Il faut continuer. Là, le point de non-retour. Sans remède. 2 Rois 21, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vais faire venir sur Jérusalem et sur Juda des malheurs qui étourdiront les oreilles de quiconque en entendra parler. J'étendrai sur Jérusalem le cordeau de Samarie et le niveau de la maison d'Akab. En d'autres termes, je ferai la même chose que j'ai fait au royaume du Nord. Je nettoierai Jérusalem comme un plat qu'on nettoie et qu'on renverse sens dessus dessous après l'avoir nettoyé, hein, pour que l'eau dégouline. J'abandonnerai le reste de mon héritage. Je les livrerai, que Dieu livre son peuple, entre les mains de leurs ennemis. Ils deviendront le butin et la proie de tous leurs ennemis. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait ce qui est mal à mes yeux. Ils m'ont irrité depuis le jour où leurs pères sont sortis d'Égypte jusqu'à ce jour. Le Seigneur dit, ils ont toujours été comme ça. Il y a eu des périodes mieux que d'autres, mais il y a constamment ce trait. Et nous ne sommes pas meilleurs. Nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Sauf que nous avons le Saint-Esprit, la présence de Jésus en nous par le Saint-Esprit. Voilà la différence. Mais il nous faut quand même prendre garde. Babylone renverse Juda, détruit la ville de Jérusalem en 586. Vous verrez aussi 587, c'est difficile de voir entre les deux années. D'ailleurs, la chronologie de l'Ancien Testament est assez difficile. Alors, l'Éternel fit monter contre le roi des Chaldéens, c'est les Babyloniens, et tua par l'épée leurs jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire. Il n'épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni l'homme aux cheveux blancs. En d'autres termes, c'était sévère à un point terrible, terrible. Il livra tout entre ses mains. Nebuchadnezzar emporta à Babylone tous les ustensiles à la maison de Dieu. Donc là, la honte religieuse, si vous voulez, hein, l'opprobre. Grand et petit, les trésors de la maison de l'Éternel, les trésors du roi, de ses chefs, ils brûlèrent la maison de Dieu. Le temple était brûlé. Ils démolirent les murailles de Jérusalem. Ils livrèrent au feu tous ses palais. Combien de palais avait le roi ? Je ne sais pas, mais palais veut dire aussi les grandes maisons des nobles. À Venise, vous avez visité Venise, il y a les palais du doge, donc celui qui régnait, mais les autres palais des nobles, il y a beaucoup de palais à Venise, eh bien ils sont tous détruits. Ils détruisirent tous les objets précieux. Il emmena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée. Beaucoup ont été tués, et pratiquement tous ceux qui n'ont pas été mis à mort, et tués dans la bataille, ont été emmenés captifs, presque tous. Et ils lui furent assujettis à lui et à ses fils jusqu'à la domination du royaume de Perse. Qu'est-ce que ça veut dire, jusqu'à la domination du royaume de Perse? Eh bien, les Babyloniens, à un certain moment, ont été conquis par d'autres personnes, par les Perses. Hein? Et effectivement. On va voir ça la prochaine fois au mois de mars. Artaxerxès. Ça, c'est ce nom grec. Il a un nom perse aussi. Oui, mais je confonds entre Xerxès et Artaxerxès, lequel était le mari d'Esther, qui était Assuérus. On verra ça la prochaine fois. Comment ? Oui. Non. Cyrus a conquis les Babyloniens et a donné des décrets. Vous êtes juifs ? Rentrez, construisez-moi un temple pour Dieu. Donc, enfin, oui, libéré, en quelque sorte, oui, oui. Mais la plupart sont pas. Bon, on verra ça la prochaine fois, et la chronologie, bon, il faut que j'étudie un peu plus, hein. Alors, pourquoi le jugement de Dieu si sévère? Les vieillards, cheveux blancs, etc. Eh bien, le péché du peuple était grave, grave, grave. Et généralisé, et à répétition. Et le Seigneur était patient. Non pas des décennies, mais des siècles. Donc, voilà un petit peu. Je ne sais pas si ça répond directement à la question pourquoi si sévère, mais il faut prendre ça en compte. Il faut prendre en compte que nous n'apprécions pas, comment dire, à sa juste, pas à sa juste valeur, mais l'inverse, à sa juste gravité, le péché que nous commettons. Nos paroles dures, parfois, les uns envers les autres, même dans l'Église, ou nos petits mensonges. J'ai eu un responsable de chrétien évangélique qui m'a menti. Je savais qu'il mentait. Nous ne mesurons pas. Si nous voulons savoir quelle est la gravité de nos péchés et des leurs, j'aurais dû vous donner un diapo de Matthias Grunewald, le triptyque Isenheim, le retable de Isenheim, vous connaissez ? La crucifixion. Le tableau sur bois, de Matthias Grünewald, un Allemand d'ailleurs, pas un Alsacien, mais un Allemand, c'est vraiment effarant. La souffrance. Eh bien, mon péché et le vôtre a mis Jésus sur la croix. Donc là, la sévérité est moindre, je veux dire. Ils ont subi un jugement physique, ils ont perdu leur vie, et ce n'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est les temps de feu, de persister dans la rébellion. La 9e année du règne de Sédécias, le 10e jour du 10e mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem. Je répète ici, mais volontairement. Il campa devant elle et éleva des retranchements tout autour. La ville fut assiégée jusqu'à la 11e année du roi Ézéchias. Le 9e jour du mois, la famine était forte dans la ville. Il n'y avait pas de pain pour le peuple du pays. Alors la brèche fut faite à la ville. Et tous les gens de guerre, juifs, s'enfuirent de nuit par le chemin de la porte entre les deux murs près du jardin. Là, ils abandonnent les civils. L'armée abandonne les civils. Le jardin du roi, pendant que les Chaldéens environnaient la ville. Les fils de Sédécias furent égorgés en sa présence. Je crois que Ésaïe a prédit ça. Puis on creva les yeux à Sédécias, le roi. On le lia avec des chaînes d'airain. On le mena à Babylone. La dernière chose qu'il a vue, c'est ses fils, les yeux crevés. Nebuzaradan, chef des gardes, serviteur du roi de Babylone, brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi et les autres palais, et il emmena captifs ceux du pays qui étaient demeurés dans la ville. Donc beaucoup de gens ont perdu la ville et le reste est devenu captif. Et il laissa comme vignerons et comme laboureurs quelques-uns du plus pauvre du pays. Il voulait qu'ils produisent quelque chose. Donc il faut produire pour l'Empire. Et ainsi Judas fut emmené captif loin de son pays. Tragédie. Tragédie. Dans quel état les Babyloniens ont-ils laissé Judas? Jérémie le décrit. Sion sera labourée comme un champ. La ville, labourée. Jérusalem deviendra un monceau de pierres et la montagne de la maison, la colline sur laquelle était construit le temple, une haute forêt. Vous avez déjà pris des chemins de campagne, vous avez vu les maisons avec un arbre qui pousse au milieu, le toit est détruit, est tombé, il y a un arbre au milieu. Voilà Jérusalem. Je vais prendre un moment. C'est cette chanson. J'imagine que beaucoup. Eh bien, il chante sur les bords des fleuves de Babylone. Nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants, nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Required of us a song. Il nous demandait un chant. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Allez, on aime bien votre musique, la juive. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Ils sont exilés. Moi, je ne sais pas si tu es un Français, mais je peux chanter les chants de l'Éternel ici dans notre culte avec vous, même maintenant. Quel est le problème? Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel? On n'est pas en Israël, on est à l'étranger. Quel est le problème? On va voir ça la prochaine fois, au mois de mars. Si je t'oublie, Jérusalem, il faut que je lise en entier, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Est-ce qu'ils ont changé? Ah, je crois, ils veulent honorer le Seigneur et Jérusalem. Enfin, j'interprète. Mais ensuite, vient la partie terrible du psaume. Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom. qui dans la journée de Jérusalem, le jour où Jérusalem était écrasée, il disait « Allez-y, rasez jusqu'à ses fondements, bien fait pour eux !» Souviens-toi, ça veut dire ben, « châtie-les. Ouais. Fille de Babylone l'a dévastée. » Elle n'est pas encore dévastée. Hein. Donc ça, c'est une prophétie ou un souhait que Babylone soit dévastée. « Heureux qui te rend appareil, le mal que tu nous as fait. » Le roc qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. Il y a des choses dans la Bible qui heurtent, n'est-ce pas? Je ne suis pas convaincu. Je suis convaincu que c'est la parole de Dieu. Je ne suis pas convaincu qu'ils expriment là. Oui. Quoique, c'est difficile, hein, parce que la volonté de Dieu a été le jugement contre eux. Donc, moi, j'ai pas encore la réponse à ce genre de ce problème. Il y a des problèmes éthiques. Je sais que ma nièce à Nice et d'autres personnes en France et en Europe, dans le monde, vont prendre des passages comme ça et dire « Regardez votre religion. » C'est trop simple. C'est trop simpliste. Commentaire concluante. Où en sommes-nous sur cette... Donc à gauche ici, une grande nation qui a été divisée en deux, Israël et Juda, avec des périodes de guerre entre eux, et les symboles en dessous, division, déportation en Assyrie. On a mis des pointillés parce que les gens ne reviennent pas, ça symbolise un petit peu. Et puis, je ne sais pas combien d'années plus tard, est-ce que dans votre sur votre support vous avez les années 211 ans, 347 ans ça? Voilà, et en Israël 211 ans, Juda a duré entre la division... et jusqu'à l'exil en Babylone, 347 ans. Et donc le symbole en dessous, Judas ici, qui est déporté. La première scène qui est ici à gauche, c'est la construction des grandes nations, à partir de la division jusqu'à l'exil des Juifs. C'est la deuxième scène, la déchéance. Autrefois, je disais, j'ai marqué dans les notes d'autrefois les supports, destruction. Non, parce que le peuple n'est pas détruit. Mais déchéance. Est-ce qu'on voit ici une progression? La progression égale trois points d'interrogation. Abraham, je ferai de toi une grande nation. Et si je peux ajouter quelques phrases. Et toi et ta grande nation et tes descendants seront un canal de bénédiction. Qui va apporter les eaux fraîches des montagnes dans la plaine qui en a besoin. On va dire comme ça, un canal de bénédiction. Et maintenant, le canal, il est détruit, hein. Il est pollué. C'est un instrument théocratique, on pourrait dire, accomplir quoi? Son plan de rédemption. Son plan de rédemption. Mais maintenant, il a détruit son instrument. Il a dispersé. Il a dispersé. Si le but de Dieu est de construire une nation, et c'est tout, ça n'a pas de sens. Mais pour s'en servir d'un instrument, maintenant il a détruit. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Il punit. Il y a des jugements. Oui, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il y a des leçons apprises par Israël, c'est-à-dire par les Juifs de l'époque, qui sont une réponse partielle, on pourrait dire. Ils ne suivent plus l'idolâtrie après cet exil. Moi, je crois que ce psaume 137, que c'est des gens qui veulent ne plus suivre des idoles, qui veulent rentrer à Jérusalem, pour adorer l'Éternel. Et ils sont en deuil. La tentation est toujours là. On peut voir après, quand les Grecs envahissent le Moyen-Orient, le Levant, et donc ce qu'on peut appeler maintenant, après quelques siècles, la Palestine, où vivent les Juifs, certains Juifs suivent la religion grecque. Certains apostates suivent la religion grecque et les Maccabées vont se révolter contre ça. Donc il y a quand même quelques Juifs qui sont attirés par l'idolâtrie toujours. Mais dans les évangiles, vous avez lu les discours de Jésus contre l'idolâtrie des Juifs de son époque? Non, il n'y en a pas. Les Juifs n'étaient plus idolâtres de l'époque de Jésus. Ils sont guéris de ce mal-là, plutôt. Jésus a eu du fil à retordre avec les pharisiens et les sadducéens sur autre chose que l'idolâtrie, plutôt sur le légalisme, sur le détournement de la loi. Mais donc, voilà, les leçons de jugement et de l'exil, c'est qu'ils abandonnent les idoles, deviennent monothéistes. Mais aussi, numéro 2, la contribution des prophètes, la période la plus longue, la plus étoffée quand Dieu a parlé. Et donc, nous apprenons beaucoup, beaucoup, beaucoup sur Dieu par ses écrits, que nous ne saurions pas forcément sur sa patience. Mais ça n'explique pas tout ce que Dieu est en train de faire. Dieu ne se presse pas, il prend le temps qu'il faut, il prend beaucoup de temps dans cette période. Et ça pourrait nous prendre à nous un certain moment pour comprendre aussi. Page 9. Alfred Hildersheim, né en Autriche, un juif, je ne crois pas qu'il est devenu rabbin, mais il était érudit. Il se convertit à Jésus-Christ par l'influence du ministère d'un aumônier écossais qui est là avec les armées britanniques pour se battre contre Napoléon en Autriche. C'est l'histoire en 1810-1812, je ne sais pas quelle année. Hildersheim se convertit à Jésus. Et quand l'armée britannique est rapatriée et l'aumônier écossais, dont j'ignore le nom, rentre chez lui, Hildersheim dit « Je viens avec toi ». Et donc il rentre en Écosse et fait des études. Il devient pasteur de l'église d'Écosse, qui est une église réformée, une église presbytérienne. Et plus tard, il déménage en Angleterre et devient pasteur de l'église anglicane, qui est un peu différente quand même. Et il écrit « The Life and Times », comment on dit ça en français ? La vie et, le contexte, le temps historique du Messie, le Seigneur Jésus-Christ. Un tome de 600 pages, 800 pages que j'ai chez moi, je n'ai pas encore lu tout ça. Il écrit beaucoup de choses, Hildersheim. Mais voici une citation. « Cela serait une déformation que de voir l'exil à Babylone comme uniquement une punition pour le péché d'Israël. Il n'y a rien dans toutes les actions de Dieu dans l'histoire qui soit exclusivement punitif. » Donc il ne nie pas qu'il y a cet élément. La punition n'est que l'élément négatif, mais il y a toujours un élément positif également, celui d'une progression certaine. J'aime bien ce mot, ça se conjugue avec ce cours. Même si, dit Hildersheim, pour accomplir cette progression, quelque chose doit subir une sorte d'écrasement. Le temple détruit, Jérusalem détruit, oui, c'est une sorte d'écrasement. Ce pas en avant consiste en... Attendez, vous avez le reste là ? C'est dommage, on devrait attendre le mois prochain pour lire le reste. On va lire le reste là, le mois prochain, mais il y a une raison pour ça. Il y a une raison pour ça. On va voir le mois prochain une suggestion de ce que Dieu est en train de faire pendant cette période de sorte d'écrasement. Mais finissons avec la promesse de Dieu. Dans Jérémie 29, « Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, et je crois que Daniel a lu ce texte et a dit, « Seigneur, maintenant il y a 70 ans, écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. J'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. » Vous pouvez lire dans Deutéronome et dans 1 Chronique 6, dans la prière de Salomon, la promesse ou l'idée dans la prière de Salomon, « Seigneur, s'il te plaît, quand ils sont captifs et pris vers ce pays, exauce-les, ramène-les dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Nous autres chrétiens évangéliques, nous citons ce passage les uns pour les autres. Il faut voir l'origine, c'est pas pour nous. C'est pour nous en parallèle. Nous avons un avenir de l'espérance, la nouvelle terre, le royaume de Dieu, la nouvelle terre. Mais là, il s'agit de quelque chose de plus concret. Il s'agit de quoi, son projet de paix et non de malheur? Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous allez prier, oui, et vous partirez d'où? De Babylone. Vous me prierez et je vous exaucerai. vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Là, on pourrait isoler cette phrase-là, hein, oui. Et ça, on peut l'isoler hors de son contexte, et ce serait tout à fait valable. Dans tous les temps, si on cherche le Seigneur de tout notre cœur, on le trouve. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Ça, c'est pas l'Église, c'est Israël. Hein. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Jérusalem, Juda. Ce n'est pas la fin de la nation. Nous n'allons pas directement à l'Église, à la séance prochaine. Nous restons dans la nation pour voir ce que Dieu veut faire de cette nation. Ce n'est pas la fin de la nation. Eh bien, la prochaine fois. Là, si vous tournez la page, je crois que vous avez ce schéma-là, que je commente légèrement. On a acte 1, scène 1, la construction d'une grande nation entre Abraham et David. C'est devenu vraiment une grande nation. Entre David et l'exil à Babylone, il y a ici une division de la nation, et donc c'est la déchéance. Les gens du nord sont déportés à Assyrie, ce schéma-là ne les montre pas, et les gens du sud sont exilés en Babylone. Ils vont revenir, c'est raconté dans le livre d'Esdras, avec Zorobabel, qui est leur chef, et reviennent avec Zorobabel. Esdras revient aussi, Néhémie revient, et on a aussi le livre d'Esther. Cette scène 3, c'est le retour. Vous voyez en bleu là, construction, déchéance, retour. Autrefois, je disais retour d'une nation, mais ce n'est pas une nation. C'est retour d'un peuple. Et remarquez les 14 générations entre les trois. Vous reconnaissez d'où viennent ces 14 générations ? Matthieu chapitre 1, c'est la généalogie de Jésus dans Matthieu 1, ça c'est le verset 17, et Matthieu dit, il y a 14 générations entre Abraham et David, 14 générations entre David et la déportation à Babylone, et 14 générations entre la déportation à Babylone et la venue à la naissance de Jésus. Si vous regardez dans l'histoire, dans cet testament, il y a beaucoup plus que 14 générations. Et donc, certains disent, ah, attends, la parole de Dieu dit qu'il y a seulement 14 générations, et pourtant... Non, Matthieu nous dit, j'ai mis 14 générations dans ma généalogie, ici. J'ai mis 14 ici, j'ai mis 14 là. Je ne vous donne pas tous les noms, j'interprète. Hein. Et en fait, dans aucune généalogie, on a tous les noms. Mais ça veut dire, fils d'eux veut dire descendant d'eux. Et pourquoi il fait comme ça, Matthieu ? Ben pour nous donner la division de cette période en trois. Et donc, ici les 12 étapes, là, ne sont pas forcément inspirées, mais la scène 1, la scène 2 et la scène 3 sont inspirées. C'est dans Matthieu 1, 17. Et on divise l'Ancien Testament comme ça, c'est tout à fait logique, mais c'est aussi confirmé, on va dire, par l'évangéliste Matthieu. Ok, la prochaine fois, science 15 et 16... Esdras, Néhémie et Esther, qui est aussi passionnant. Ils chantent, comment chanterions-nous les chants de l'Éternel dans une terre étrangère ?
Le groupe s'appelle Bonnie.
D'ailleurs, c'est pas vraiment un groupe chrétien du tout.